Bonsoir à toutes et à tous. En ce mois de novembre qui a vu commémorer l'armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre dernier, et à l'approche de 2014, où le centenaire de la déclaration de la guerre de 1914 sera largement célébré, vraisemblablement en France, en Europe et aux quatre coins du monde, eh bien 1914 sera célébré aussi à travers de nombreuses publications, expositions. Et justement, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir devant les micros de Wagon Livre, quelques-uns des organisateurs d'un colloque qui va se tenir dans 3 jours au théâtre municipal d'Auxerre. Ce colloque aura pour thème Lyon dans la guerre, 1914-1918, et rassemblera des historiens, des chercheurs et des intervenants passionnés. Ce sera donc ce samedi 30 novembre, de 8h30 à 18h, je le répète, au théâtre municipal d'Auxerre. Colloque organisé par l'association Adi Amos 89, je traduis Adi Amos, association pour la documentation, l'information, l'archivage des mouvements sociaux. Et je souligne que l'entrée est libre. Alors avec nos invités que je vais vous présenter d'ici quelques secondes, nous aurons l'opportunité de définir le rôle et les missions de l'association Adi Amos 89, de mettre en valeur quelques-unes de ses récentes publications, et bien évidemment de présenter le contenu du colloque qui se tient ce samedi. Les invités devant notre micro ce soir, tout d'abord le président de l'association Adi Amos, Michel Cordillo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président donc d'Adi Amos et professeur émérite de l'université Paris 8. Vous êtes venu accompagné de votre trésorier Denis Martin. Denis Martin, bonsoir.
Bonsoir,
merci à vous. Vous êtes alors historien de Lyon, on vous connaît bien sûr aussi dans la vie publique et politique d'Auxerre, où vous êtes adjoint au maire d'Auxerre, comme vous le précisiez, jusqu'au mois de mars de l'an prochain. Et puis vous avez rédigé une importante contribution sur l'histoire des événements de mai 68 dans Lyon, et vous interviendrez samedi prochain dans le colloque au cours d'une intervention qui aura pour thème les soldats russes du cimetière du Nant d'Auxerre. Frédéric Gand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agrégé d'histoire. Vous faites partie, vous aussi, des 10 intervenants du colloque 1914-1918 Lyon dans la guerre. Et votre communication aura pour thème les iconets face aux morts de la guerre 14-18. Et je termine avec un membre du bureau d'Adi Amos, que les auditrices et auditeurs de Wagon Livre connaissent peut-être, puisque nous l'avions reçu pour un ouvrage absolument remarquable, qui, d'ailleurs, bonne nouvelle, va être réédité l'an prochain, c'est Michel Mauny. Bonsoir Michel Mauny.
Bonsoir.
Alors, on vous avait reçu effectivement pour Émile et Léa, lettre d'un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre. Et vous interviendrez également au cours du colloque d'Adi Amos samedi prochain pour une communication qui aura pour intitulé « La guerre analysée par Gabriel Le Teinturier », à savoir la vision du préfet de Lyon. Merci à vous messieurs donc d'être en notre compagnie ce soir. Je vais d'abord demander au président d'Adi Amos 89 de nous rappeler si besoin les rôles et les missions de l'association Adi Amos.
Alors cette association a maintenant 13 ans, puisqu'elle s'est créée au départ pour commémorer les événements de 1851 dans Lyon, le coup d'État et la résistance des républicains de Lyon. Et puis comme on s'est aperçu qu'il y avait un public intéressé par cette mémoire sociale du département, eh bien, nous avons continué. Et puis de fil en aiguille, nous sommes en train de passer en revue un certain nombre d'épisodes ou un certain nombre d'aspects de l'histoire de Lyon qui n'avaient jusqu'à maintenant été que fort peu traités. Alors, nous avons maintenant pris l'habitude d'organiser un colloque annuel. Nous en sommes à 10. Chaque colloque étant suivi de la publication des actes. Et l'ensemble des actes de ces colloques constitue un apport, je crois, tout à fait important à une meilleure connaissance de la vie du département, en gros de la Révolution française à 1968.
Alors, on peut devenir membre d'IAMOS sans forcément avoir l'obligation ou le désir de se pencher sur un sujet d'étude. On peut adhérer comme ça pour suivre l'actualité de cette association.
IAMOS, c'est une association loi de 1901 et qui en plus a un fonctionnement très souple. C'est-à-dire que nous accueillons volontiers tous les adhérents qui veulent nous donner 10 euros ou plus chaque année, mais nous sommes prêts aussi à accueillir volontiers tous ceux qui viennent simplement parce qu'ils sont intéressés, que ce soit par l'ensemble de nos travaux ou par un colloque précis.
Alors, Lyon dans la guerre 1914-1918, le colloque arrive de manière un peu prématurée, mais c'est, me semble-t-il, bien choisi et délibéré.
Oui, alors... Une de nos idées au départ était de faire en sorte que les actes du colloque, qui suivront dans les six mois après la tenue du colloque, paraissent effectivement en 1914 et non pas soient repoussés plus tard. Et une deuxième idée était qu'il risque d'y avoir un embouteillage au moment de l'année 2014, au moment du centenaire, et que si nous voulions nous assurer le concours d'un certain nombre de grands spécialistes qui vont être très demandés au cours de l'année à venir, comme le professeur Jean-Jacques Becker, qui préside la mission du centenaire et qui, par ailleurs, est adhérent de IAMOS. Si nous voulions qu'il puisse venir et participer à nos travaux, ben, il fallait le faire un petit peu en amont pour qu'il soit un peu moins pris par leurs obligations. C'est pour ça que nous avons choisi cette date. Et d'ailleurs, la mission du centenaire a parfaitement compris notre souci. Bon, il y a le colloque, mais il y a aussi beaucoup d'autres manifestations qui sont organisées par IAMOS autour du colloque et dont nous aurons peut-être l'occasion de parler. Et la mission du centenaire nous a accordé son label pour l'ensemble des manifestations qui vont donc débuter fin 2013 et se poursuivre durant toute l'année 2014 et même au-delà.
Alors je voudrais, avant que nous continuions, à dresser un bilan des pertes humaines de cette guerre qu'on a désignée souvent comme une grande boucherie. Alors, ce sont des chiffres que j'ai trouvés dans un petit découverte Gallimard signé de Annette Becker. Je crois que c'est la fille de Jean-Jacques Becker, si je ne me trompe. Sur 70 millions d'hommes ayant porté l'uniforme durant 4 ans, près de 10 millions sont morts. 3 à 4 fois plus ont été blessés. Ce qui veut dire 30 à 40 millions de blessés. Et en moyenne, près de 900 Français et 1300 Allemands sont morts chaque jour, je dis bien chaque jour, entre 1914 et 1918. Alors, je m'adresse aux historiens, aux passionnés. Michel Mauny.
Oui, alors les chiffres que vous avez cités sont valides. Ne cherchons pas la décimale, parce qu'évidemment, selon les sources, il y a toujours quelques petites fluctuations. Ce que l'on pourra préciser, c'est en ce qui concerne les pertes strictement françaises, la moyenne journalière effectivement approche les 1000 morts par jour sur une durée de 4 ans, ce qui est quand même assez énorme. Et avec évidemment une moyenne à elle seule ne suffit pas, parce qu'il faut également analyser les écarts. Une moyenne est le fruit d'une marge minimum et d'une marge maximum. Le maximum a été donné au tout début de la guerre, au moment de ce qu'on appelait la bataille des frontières. Pour être plus précis, c'est le 22 août où les pertes françaises sont de 23 000 hommes dans la journée. C'est quelque chose de très important.
Frédéric Gant.
Oui, alors on a également les chiffres pour Lyon, puisqu'on sait qu'il y a eu plus de 10 024 exactement morts d'Iconet. Alors on a même le détail, puisque quand on se rend aux archives dans la série R, on peut même connaître exactement par arrondissement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on réalise, c'est lié bien entendu aux chiffres de population de l'époque, on a le recensement de 1911, on réalise que ça fait à peu près 3,3% de la population de Lyon, qui était à peu près à plus de 300 000. Mais on remarque que l'arrondissement qui a été le plus touché, c'est l'arrondissement d'Auxerre, avec plus de 3500 morts. Et ensuite, vous avez celui de Joigny, et ensuite, pour les autres arrondissements, on est autour de 1000. Ça, c'est la première remarque importante qu'on peut faire. La seconde, qui est aussi très, très, très utile, c'est de voir qu'il y a une grosse différence entre les villes et les campagnes. Alors pourquoi ? Ça n'échappe à personne que la plupart des mobilisés et des tués ont été des agriculteurs qui ont quelquefois été rappelés pour les récoltes au cours de la guerre, mais de manière très, très, très minoritaire, très, très faible, et qui n'ont pas pu être placés dans les usines. Donc on a quelquefois dans certaines communes, comme à Fier, je cite de mémoire, on a 78% des mobilisés qui sont morts. Ce qui est quand même considérable. Alors 78, 4 cinquièmes, donc même s'il y a eu 20 mobilisés, ça fait quand même 16 morts. C'est énorme pour une commune comme celle-ci.
Tout en sachant qu'effectivement, un mort entraîne un deuil d'environ une dizaine de personnes, les familles étant importantes. Alors sur ce constat terrible, bien évidemment, des pertes, et ne parlons pas des mutilés, des blessés et des disparus, on ne va pas effectivement peut-être noyer les auditrices et auditeurs de Radion sous les chiffres. Question peut-être légèrement provocante, est-ce que la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, du début de la Grande Guerre, est-ce que cette commémoration est unanime? Est-ce que la France entière, j'allais dire, se retrouve à la manière des politiques en 1914, sorte d'union sacrée? Est-ce qu'il y a union sacrée autour de la commémoration du centième anniversaire de la déclaration de la guerre? Michel Cordillo.
Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la mémoire et l'histoire. On est en train de passer de la phase de la mémoire à la phase de l'histoire. Maintenant, il n'y a plus de poilus survivants. Même les enfants des poilus commencent à diminuer sérieusement en nombre. Et donc, on en est maintenant à un stade où il faut réfléchir, comprendre, analyser. Et c'est à ça que va servir notre colloque. Je veux dire, c'est pas tant une commémoration qu'une réflexion sur l'événement, sur une analyse en profondeur, et faire en sorte que cette histoire soit beaucoup mieux connue.
Frédéric Gand.
Oui, je voulais ajouter à la suite de ce que vient de dire justement Michel, c'est que les problèmes de la mémoire sont beaucoup plus brûlants après la Seconde Guerre mondiale, et notamment après la guerre d'Algérie. Moi qui enseigne au lycée Jacques Amyot, avec mes collègues de terminale, on enseigne l'histoire conflictuelle de la mémoire de la résistance, histoire conflictuelle de la mémoire d'Algérie. Le problème ne se pose pas du tout pour la guerre 14-18, ce qu'on appelle la Grande Guerre, où il y a eu une sorte d'unanimité. J'ai envie de dire, tout le monde est d'accord pour célébrer et reconnaître la tombe du soldat inconnu. Ça ne pose pas de problème. Si vous demandez à n'importe qui quel est le lieu fondateur où on se rassemble pour célébrer la Grande Guerre, tout le monde vous répondra sous l'Arc de Triomphe. Maintenant, je vous pose la question, quel est le lieu fondateur de la Seconde Guerre mondiale?
Peut-être au Radour-sur-Glane.
D'après l'inauguration récente du président de la République, oui. Mais d'après De Gaulle, c'était le Mont-Valérien. Officiellement, c'était le... Donc vous voyez, c'est aussi l'intérêt de ce colloque de poser ces questions.
La Grande Guerre dans Wagon Livre. Je vous rappelle donc que samedi 30 novembre se tiendra un colloque organisé par Adiamos 89 sur le thème 1914-1918, Lyon dans la guerre. Ce sera au théâtre municipal d'Auxerre, rue Joubert, hein, de 8h30 à 18h, l'entrée est libre. Colloque sous la présidence de Jean-Jacques Becker, professeur émérite, spécialiste vraiment reconnu de la Grande Guerre et fondateur du mémorial de Péronne dans la Somme. Nous retrouvons nos quatre invités d'ici quelques minutes. Nous vous laissons en chanson. Tout de suite, Rose qui interprète Et puis Juin. Bonne soirée sur Radion. On se retrouve d'ici quelques minutes.
Entre deux saisons, un sourire à la con. Septembre est à l'honneur et lance le compteur. Entre des aveux, un bonheur nauséeux. Octobre se traîne un peu et je mange pour deux. Entre deux sanglots, les hormones. Et puis je... Et puis... et ce boulet de Mars qui me suit à la trace. Entre deux rendez-vous, ton petit cœur qui joue du tambour dans mon pouls. Avril, regarde à vous. Entre deux coups de pied, on te tire le portrait. Oh, mais j'ai eu la trouille. Doit arriver ta bouille. Et puis juin, et puis toi.
Venez de nous rejoindre sur la fréquence de Radion ou si vous nous suivez via internet sur le www.radion.fr, sachez que vous écoutez Wagon Livre comme chaque mercredi depuis novembre 2010, la seule heure littéraire hebdomadaire sur les ondes en Bourgogne, osons le dire. Et nous accueillons ce soir le président de Adiamos 89, Michel Cordillon, venu accompagné de Denis Martin, Frédéric Gant et Michel Mauny pour nous donner de plus amples informations sur le colloque 1914-1918 Lyon dans la guerre qui s'ouvrira ce samedi 30 novembre dès 8h30 au théâtre municipal d'Auxerre sous la présidence du professeur Jean-Jacques Becker. Michel Cordillon, Adiamos, outre ses missions et les fonctions que vous avez rappelées au début de notre rendez-vous, Adiamos donc publie les actes des colloques. Alors à ce jour, 7-8 publications, plus peut-être ?
Ben plus, oui. À ce jour, nous en sommes exactement à 11 publications d'Adiamos. Et nous continuerons, puisque bientôt nous allons republier une version augmentée, revue et augmentée d'Émile et Léa de Michel Mauny. Et dans la foulée, nous publierons bien entendu les actes du colloque sur la guerre 14-18. La publication des actes, c'est important parce que c'est ça qui reste au fond. Les colloques sont des événements toujours extrêmement intéressants, que les participants aiment en général, apprécient, parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Mais après, ils aiment aussi relire les actes à tête reposée pour réfléchir et donc avoir ça sous la main quand ils ont besoin de trouver des renseignements. Donc nos deux dernières publications, je ne veux pas passer toutes nos publications en revue, mais les deux dernières donneront peut-être une idée plus précise aux auditeurs. D'abord, un travail de Denis Martin, ce qui est tiré de ses recherches de maîtrise il y a déjà une bonne douzaine d'années. Lyon sous la Deuxième République, donc qui passe en revue toute la période de 1848 à 1851, et les actes de notre dernier colloque, donc celui de 2012, sur les débuts de la Troisième République dans Lyon, de 1870 à 1889, où on essaie de montrer comment la République s'est installée dans Lyon après la chute de l'Empire en 1870, et comment Lyon s'est républicanisé jusque dans les petites campagnes durant cette période.
Alors, j'invite d'ailleurs les auditrices et auditeurs à se rendre sur le site internet de Adiamos, où là on retrouve absolument l'intégralité des publications, leur couverture, les tarifs, on peut même les commander, c'est vraiment très, très
oui,
facile.
Oui, ou les trouver à la librairie d'Avalon.
D'Avalon et d'Auxerre aussi. Merci de rappeler Avalon, parce qu'effectivement, la librairie d'Avalon est partenaire de l'émission Wagon, mais vous faites bien de le souligner. Alors, rentrons peut-être cette fois-ci, si vous le voulez bien, dans le détail de cette grande journée, de ce samedi qui vient, samedi 30 novembre, qui va voir se succéder au micro du théâtre municipal d'Auxerre une dizaine d'intervenants. Michel Monnier, c'est vous qui allez nous présenter les différents intervenants et surtout les différentes thématiques qui ont toutes attrait à Lyon dans la guerre 1914-1918. Michel Monnier, je vous laisse la parole.
Comme on l'a vu à l'instant de la bouche de notre président Michel Cordillo, les thèmes abordés depuis une douzaine d'années maintenant, on l'a vu, sont relativement variés, bien que tous convergeant vers l'histoire sociale du département de Lyon, mais sous des angles divers. Et la chance que j'ai eue d'être soutenu par Adiamos, qui m'avait largement encouragé pour présenter la première édition de mon bouquin Émile et Léa, dont on a parlé il y a peu, et bien cette situation-là a fait que lorsqu'on a envisagé de faire quelque chose sur 14-18, tous les amis d'Adiamos m'ont dit « Michel, c'est toi que ça concerne ». C'est clair. Plus exactement, ils m'ont dit « c'est toi qui montes en première ligne ». Ce sera moins dangereux que la première ligne de nos aïeux, bien sûr. Alors, voilà pourquoi j'ai été placé en charge de ce travail qui me passionne beaucoup. On va dire effectivement quelques mots des différents intervenants. Le professeur Jean-Jacques Becker, qui va assurer la présidence du colloque, rappelons-le, est une notoriété, je dirais, de niveau national, voire international. Il travaille énormément, d'ailleurs, avec, j'allais dire, son homologue, on peut dire ça comme ça, avec Gerd Krumeich, qui est monsieur 14-18 d'Outre-Rhin, de l'université de Düsseldorf. Ils viennent d'ailleurs de publier un livre commun, co-signé, qui s'appelle tout simplement 1914-1918, une histoire franco-allemande, ce qui présente l'intérêt de faire voir les deux volets de l'affaire. Alors, sur Jean-Jacques Becker, j'en dirai pas plus. On va passer en revue, si vous êtes d'accord, les différents intervenants qui sont programmés pour ce colloque. Le premier d'entre eux, on a dit quelques mots tout à l'heure, c'est Frédéric Gand, qui va traiter donc de la question de comment les Iconais, quelle l'attitude des Iconais face à l'énorme mortalité enregistrée dans Lyon. À chaque fois, et ce que je dis là, ça va être vrai sur l'ensemble des intervenants, c'est que, d'ailleurs c'est vrai sur les colloques précédents, c'est qu'on s'attache toujours à faire que l'originalité iconaise soit recalée par des passerelles, un petit peu par le contexte plus général national. Il est toujours intéressant de dire, ben voilà, ça s'est passé de telle façon dans l'Iode, quel regard on a sur un plan plus général, c'est plus, c'est moins, comment ça se situe. Voilà. Alors, vrai pour ça. Est-ce que Frédéric, tu veux rajouter quelque chose de particulier sur ce thème-là, puisque tu es présent ?
Bah, je pourrais juste rajouter que on est dans un peu une histoire également des mentalités. Ce n'est pas uniquement l'aspect quantitatif. Il s'agit de voir comment l'opinion a réagi, comment la presse s'en est fait l'écho, comment les autorités, on le voit à travers plusieurs sources d'archives que j'ai pu consulter aussi bien aux archives municipales qu'aux archives départementales. Et mon but sera, mais tu l'as déjà un peu évoqué, Michel, sera de voir ces changements d'échelle, aussi bien à l'échelle départementale, à l'échelle d'Auxerre, puisque le Bourguignon, qui est certes un quotidien départemental, se fait surtout l'écho quand même de la préfecture, de la ville préfectorale. Et puis aussi au niveau, si j'espère les gens en sont intéressés, au niveau du lycée, puisque le lycée qui a été également un hôpital temporaire, on en parlait tout à l'heure, qui a été mobilisé pendant la guerre, a eu un rôle très important. Et après la guerre, il s'est souvenu de tous ses morts en faisant réaliser une toile qui était assez consensuelle. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de consensuel, dommage. Il me revient une petite idée, si vous me permettez. Il y a eu une petite querelle de mémoire à Gilles-Évêque après la guerre, puisque le préfet avait fait ôter en 1923, contre l'avis de l'édile du maire qui s'appelait Eugène Manévy, une plaque qui s'appelait Association des anciens combattants républicains ou Association républicaine des anciens combattants, guerre à la guerre. C'était donc une manifestation pacifiste, et ce n'est qu'en 1989 que le maire, Madame Brunet, a rétabli cette plaque, et désormais, je sais que les maires autorisent plusieurs manifestations, aussi bien pour les manifestations traditionnelles, habituelles, mais aussi pour une association pacifiste.
Merci Frédéric Gand pour ces précisions d'histoire locale. On poursuit Michel Monny avec le déroulement du colloque de ce samedi.
Une deuxième intervention sera assurée par Monsieur Jean-Charles Guillaume, qui d'ailleurs est maire de Gilles-Évêque.
On y revient.
Voilà, on tourne. Sur le thème des ouvriers et des mouvements ouvriers à l'usine Guillet d'Auxerre, pendant la guerre et dans l'immédiate après-guerre. C'est un aperçu qui est intéressant parce que souvent dans le grand public, lorsqu'on parle de la Première Guerre mondiale, on voit l'aspect combattant et l'aspect bien connu. Tout le monde a en mémoire ses manuels scolaires où on a beaucoup plus mis l'accent sur le côté militaire, histoire, date. Or là, on verra tout au travers des différentes interventions, on est beaucoup plus orienté sur l'aspect strictement humain du vécu. Un de ces volets est celui du vécu des ouvriers à l'arrière, avec les problèmes sociaux que ça a posé.
Alors on sait aussi qu'un certain nombre d'ouvriers qui avaient été mobilisés au début de la guerre ont été retirés des combats parce qu'ils avaient une spécialisation mécanique, technique, dont les usines avaient impérativement besoin.
Absolument.
Puisqu'il s'agit quand même d'une économie de guerre désormais.
Absolument,
14-1915.
Ce qui parfois d'ailleurs provoquait un peu des attitudes, entre guillemets, de jalousie de ceux qui restaient au front.
La question aussi, les tensions sociales ont-elles été fortes dans les tranchées? Moi, il me semblait, plus jeune, avoir appris qu'en 14-1915, en tout cas au début de la guerre, la France, il y avait une sorte de mélange social où ouvriers et paysans, où urbains et campagnards se retrouvaient. On a parlé aussi de la diffusion de l'argot qui était liée à ce mélange de combattants venant d'horizons sociaux, politiques et culturels différents. Est-ce qu'on sent des tensions parmi les combattants, justement de par leur appartenance tantôt à la paysannerie, qui a été quand même grandement sacrifiée au combat, puisque je crois qu'elle était plutôt dans l'infanterie, me semble-t-il, et les ouvriers ayant été considérés un peu comme une certaine noblesse du prolétariat.
Oui, alors...
si je peux me permettre cette formule.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une réponse fragmentaire à ce sujet-là. C'est tout simplement la multiplication de l'expression « les embusqués ». Alors, on a parlé des embusqués, voulant dire par là que certains avaient plus de chance que d'autres, puisqu'ils n'étaient pas au front. Une petite anecdote, lorsque la coiffure des cheveux était très en arrière dégagée, on appelait ça être peigné à l'embusqué, parce que les cheveux étaient loin du front.
Oh, bien.
Jeu de mots. Voilà. Mais enfin, pour être un peu plus précis, j'ai vu par exemple au travers des réflexions de mon grand-père, qui lui était dans l'infanterie, il rend hommage aux artilleurs en disant certes leur travail est indispensable et nécessaire et indispensable, mais on n'a jamais vu d'artilleur demander d'aller dans l'infanterie. Voyez. Donc on sent qu'il y a quand même des clivages à ce niveau-là.
Parfait, Michel Mounier. Alors on disait une France effectivement remodelée par une économie de guerre. Et justement, Georges Ribeil interviendra sur le thème économie et services publics dans Lyon à l'épreuve de la guerre, difficultés et opportunités.
Oui, voilà. Oui, alors effectivement, c'est encore un éclairage différent, parce que il y a toujours thèse et antithèse dans tout. Certaines activités ont été lourdement pénalisées, bien sûr, de l'absence de la main-d'œuvre, de remplacement par de la main-d'œuvre pas forcément adaptée. Effectivement aussi, enfin lui il développera plus facilement que moi, parce que j'ai pas encore eu sa communication entre les mains, mais il y avait également à l'opposé.